Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse. Au programme, le dilemme démographique et on sent que les gens nous aiment. Bonne écoute.
Le dilemme démographique. Un texte de Valérie Simard avec la collaboration de Simon Chabot, paru le 15 janvier 2023 dans La Presse. Du réchauffement climatique à l'inflation, en passant par la crise du logement et même la menace nucléaire, les nuages gris s'accumulent à l'horizon. Au point où certains hésitent à mettre un enfant au monde, voire s'y refusent. Au Québec, la fécondité est repartie à la baisse. Dans un monde qui compte désormais 8 milliards d'humains, doit-on y voir un problème ou une solution? Une natalité en berne. Dans les médias occidentaux ces dernières années, les jeunes ont été nombreux à exprimer leur intention de ne pas avoir d'enfants, submergés par une inquiétude liée à l'avenir, principalement climatique. Un vaste sondage mené par des chercheurs britanniques auprès de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, provenant de 10 pays, a montré que 39 % étaient réticents à avoir des enfants. Ce chiffre rejoint celui d'un sondage réalisé par la firme Léger en mars 2019, dans lequel 37 % des 1519 Canadiens sondés étaient d'avis que faire moins d'enfants est une bonne solution pour améliorer le sort de la planète. Au Québec, c'est 28 % des personnes interrogées qu'ils pensaient. Cette année-là, la militante pour le climat Emma Lim, alors étudiante à l'Université McGill, a lancé en ligne la campagne « Pas d'avenir, pas d'enfants ». Hashtag « No future, no children ». En quelques semaines, plus de 5000 personnes s'étaient engagées à renoncer à avoir des enfants jusqu'à ce que des mesures radicales soient prises pour faire face à la crise climatique. Comment ce discours dans l'air du temps laissera-t-il sa marque sur la fécondité québécoise? Il est encore tôt pour en évaluer les répercussions. Depuis 50 ans, l'indice synthétique de fécondité, ISF, soit la mesure la plus couramment utilisée par les démographes pour évaluer la fécondité, varie entre 1,3 et 1,7 enfants par femme dans la province. L'ISF a atteint son plus bas niveau en 1987 à 1,36 enfants par femme. Depuis qu'il a atteint 1,7 enfants par femme en 2008, l'indice est en baisse. Diverses raisons peuvent expliquer ce déclin. Il y a la pandémie, bien sûr. Selon l'enquête sociale COVID-19 et bien-être réalisée par Statistique Canada au printemps 2021, le changement le plus fréquent observé par rapport aux intentions de fécondité a été le report du projet d'enfant, 14 % des personnes en âge de procréer interrogées. De 2019 à 2020, l'ISF est passé de 1,57 à 1,52 au Québec pour ensuite remonter à 1,58 en 2021. Même si les données annuelles complètes pour 2022 n'ont pas encore été publiées, rien n'indique que cette légère hausse s'est poursuivie. De janvier à octobre, on a observé une baisse du nombre de naissances au Québec par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Si la tendance se maintient, ça va être une année plutôt basse, confirme Frédéric Fleury-Pailleur, démographe responsable des projections démographiques à l'Institut de la statistique du Québec, ISQ. Le poids de l'incertitude. Si, pour le démographe Benoît Laplante, l'effet positif sur la fécondité de la mise en place en 2006 du régime québécois d'assurance parentale, RQAP, ne fait aucun doute, celui-ci n'est pas parvenu à freiner la baisse, aussi observée dans la plupart des pays industrialisés depuis la crise financière de 2008. Comment expliquer que la fécondité ne soit alors pas repartie à la hausse une fois la reprise économique accomplie? L'expert en démographie sociale et professeur titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, fait part de cette hypothèse qu'il définit comme « courante », bien que difficile à prouver. Jusqu'en 2008, dans la plupart des pays développés, la natalité augmentait lorsque l'économie allait bien et diminuait lorsqu'elle allait mal. Les décisions se prenaient en fonction des conditions économiques immédiates. Il semble que maintenant, la décision d'avoir un enfant se prend en fonction de ce qu'on croit que seront les conditions économiques à moyen ou à long terme, et il semble que l'évaluation la plus répandue soit plutôt négative, selon Benoît Laplante, professeur titulaire à l'INRS. La hausse du prix des logements, l'inflation et le fait que la croissance des revenus ne suit pas celle du coût de la vie pourraient ainsi amener les gens à craindre de ne pas avoir les ressources nécessaires pour avoir un enfant. Bien qu'ils se gardent de faire des prévisions, les démographes de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, tiennent compte dans leurs analyses de divers facteurs qui pourraient influencer la fécondité future des Québécoises. Parmi eux, le contexte économique, la hausse de la scolarité des femmes, les politiques sociales en place, la valorisation de la parentalité dans la société et la confiance en l'avenir. On peut inclure la dimension environnementale, déclare Frédéric Fleury-Payeur. Je pense que c'est réel, on le voit. Ça fait partie des facteurs limitatifs, mais il y en a d'autres, comme le retour en région, où la fécondité y est plus élevée que dans les centres urbains, qui est un autre phénomène émergent et qui pourrait avoir l'effet contraire. Tout comme le télétravail, vanté pour ses effets bénéfiques sur la conciliation travail-famille. Difficile donc de prédire si les inquiétudes liées au climat se traduiront réellement par un renoncement à la descendance. Dans les sondages, il y a toujours beaucoup de gens qui se posent la question, et c'est normal de se la poser, je me la suis posée, mais il n'y a pas forcément tant de gens qui sautent le pas et qui renoncent aux enfants, observe le Français Emmanuel Pont, auteur de « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» paru en février 2022. En tout cas, aujourd'hui, c'est très difficile à mesurer. Benoît Laplante analyse les résultats des sondages et études qualitatives sur ce sujet avec prudence. Est-ce vraiment la raison pour laquelle la personne ne désire pas avoir d'enfant? Interroge-t-il. Ou est-ce qu'elle se sert de ce discours convenu pour éviter de dévoiler les vraies raisons? Vous écoutez Le dilemme démographique, un texte de Valérie Simard avec la collaboration de Simon Chabot, paru le 15 janvier 2023 dans la presse. L'exemple de la bombe atomique. Dans les années 1950 et 1960, on craignait la fin du monde par la bombe atomique, rappelle M. Laplante. Or, aucune étude n'a démontré d'effet de cette crainte sur la fécondité de cette période. Spontanément, j'ai l'impression que ce sera peut-être la même chose pour l'éco-anxiété. C'est-à-dire une chose dont on parle énormément, mais ce qui va rester comme compréhension de l'évolution du taux de fécondité, ce sera autre chose, selon Benoît Laplante, professeur titulaire à l'INRS. Quel avenir, alors, pour la fécondité québécoise? Aucun des démographes que nous avons consultés n'a voulu se risquer aux prédictions. On n'a pas de boule de cristal, même avec un diplôme en démographie, lance Alain Bélanger, professeur à l'INRS. Et même lorsqu'on est responsable du laboratoire de simulation démographique de l'Institut. Néanmoins, le démographe tend à croire à une stabilisation de la descendance finale, soit le nombre moyen d'enfants qu'ont eu les femmes d'une génération donnée à la fin de leur vie féconde à 1,6 enfants par femme. Ce nombre représente également le scénario de base utilisé par l'ISQ pour réaliser ses projections. Ça fait environ une quarantaine d'années que le Québec est dans un régime de fécondité moderne, de plus faible fécondité, mais de fécondité somme toute moyenne par rapport à la moyenne des pays occidentaux, souligne Frédéric Fleury-Pailleur. Et si la baisse se poursuivait, jusqu'où cela pourrait-il aller? Aucune idée, répond Benoît Laplante, mais ça peut tomber. Il cite l'exemple de la Corée du Sud, qui vit une crise de la natalité avec un indice de fécondité de 0,81 enfants par femme. Faire plus ou moins d'enfants pour un meilleur avenir? Nous sommes désormais 8 milliards sur la Terre. Selon les projections de l'ONU, la population mondiale atteindra 9,7 milliards en 2050. Devrait-on se réjouir d'une baisse de la natalité au pays alors que le Canada figure parmi les 10 principaux émetteurs de gaz à effet de serre? L'atteinte de ce nouveau seuil de la population mondiale à la fin de l'année dernière a remis de l'avant les voix qui accusent la croissance démographique d'être responsable du péril environnemental et qui prônent une limitation de la population mondiale. Dans un texte d'opinion publié dans Le Monde le 9 novembre dernier, l'Association française démographie responsable appelait à imaginer de nouvelles solutions pour diminuer la fécondation des humains. Il s'agit d'un discours dangereux pour Emmanuel Pont, ingénieur de formation, qui se penche sur le sujet dans son essai « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» En 2016, le groupe de réflexion Club de Rome a été critiqué après avoir promu l'idée d'une politique de l'enfant unique pour les pays industrialisés dans un livre intitulé « Reinventing Prosperity ». Dans son essai transdisciplinaire qui marie démographie, politique, éthique et environnement, Emmanuel Pont rappelle le terrain glissant que représente le contrôle des populations. Il présente aussi l'effet limité qu'aurait, selon ses calculs, l'instauration d'une politique de l'enfant unique en France. La population met pas mal de temps à évoluer, dit-il en entrevue à la presse. Il y a une forte inertie démographique, tout simplement parce que les gens vivent 80 ans. Donc, il faut attendre près de 2100 pour diviser la population par deux par rapport au scénario où il n'y aurait pas eu cette politique. Par rapport à des objectifs comme la neutralité carbone en 2050 de l'accord de Paris, on est loin. Même s'il reconnaît que la croissance de la population est l'un des grands facteurs de la crise écologique, il croit qu'il faut davantage porter notre regard sur le système économique, notre mode de vie et la culture consumériste qui gouverne les pays industrialisés. Un avis que partage le démographe français Jacques Vénon, auteur de « Faut-il avoir peur de la population mondiale ?» paru en 2020. Il ne faut pas tenir la population responsable de tout ce qui va mal, mais ajouter dans l'équation les effets mode de vie et technologie tout aussi déterminants. Selon Jacques Vénon, démographe, dans une entrevue accordée aux médias français 20 minutes. Vous écoutez « Le dilemme démographique », un texte de Valérie Simard avec la collaboration de Simon Chabot, paru le 15 janvier 2023 dans la presse. Les risques d'une faible natalité. Aussi, la décroissance de la population dans les pays industrialisés pose des défis liés au vieillissement de la population, rappelle-t-il. Pour un pays, l'idéal démographique est d'avoir un taux de natalité près du seuil de renouvellement des générations, fixé à 2,1 enfants par femme, note Alain Bélanger, démographe et professeur à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Or, dans la plupart des pays occidentaux, Les natalités sont en deçà de ce seuil depuis de nombreuses années, ce qui entraîne le vieillissement de la population que l'on connaît aujourd'hui avec ses défis liés à la pénurie de main-d'œuvre, au financement des programmes publics et à la pression sur le système de santé. Si le taux de fécondité continue de diminuer au cours des prochaines années, le Canada pourrait se joindre aux pays où les taux de fécondité sont les plus bas, une situation associée au vieillissement rapide de la population et à une pression accrue sur le marché du travail, les systèmes de soins de santé publics et les régimes de pension. Notez aussi les analystes de Statistique Canada, Anna Fostic et Nora Galbraith, dans l'article « Changement dans les intentions d'avoir des enfants en réponse à la pandémie de COVID-19 », publié en décembre 2021. Sur une longue période, on peut aussi craindre une dépopulation si les natalités ne sont pas compensées par l'immigration. Depuis 2020, la Corée du Sud, qui a le taux de fécondité le plus bas au monde, voit sa population diminuer. La seule véritable solution démographique au vieillissement de la population, c'est d'avoir plus de naissances, selon Alain Bélanger, professeur à l'INRS. Les migrations n'ont pas un impact marqué sur la structure par âge de la population, même si les immigrants arrivent effectivement aujourd'hui plus jeunes que le Canadien moyen, parce que le Canadien moyen est très vieux, 41,7 ans. Au Québec, l'enjeu de la préservation de la langue est aussi à considérer, souligne Alain Bélanger, qui préside le comité de suivi de la situation linguistique de l'Office québécois de la langue française. L'intégration des nouveaux arrivants a un impact sur la langue et la culture. Si l'intégration linguistique et économique ne se fait pas au niveau du poids démographique des deux groupes linguistiques officiels, nécessairement, le poids du français diminue. Contrôler les naissances, une pente glissante. Alors que certains prônent l'adoption de politiques antinatalistes, d'autres réclament le contraire, tout faire pour favoriser davantage de naissances. Une pente tout aussi glissante, selon l'essayiste Emmanuel Pont. J'ai le même inconfort de cette instrumentalisation de la population parce que souvent, ce sont les mêmes personnes qui s'inquiètent de la surpopulation chez les autres et de la sous-population chez soi. Chez les démographes, la liberté des couples de choisir le nombre d'enfants qu'ils auront est généralement considérée comme fondamentale. L'idéal, c'est de faire en sorte que les familles réussissent à avoir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent sans forcer, expose le démographe Frédéric Fleury-Pailleur de l'Institut de la statistique du Québec. Pour y arriver, dit-il, l'État devrait leur offrir un soutien pour faciliter la réalisation du désir de famille. Selon les plus récentes données sur le désir d'enfant de Statistique Canada qui date de 2011, 48% des Québécoises souhaitaient en avoir deux, alors que 32% en voulaient trois ou plus. Des chiffres qui laissent croire que les couples québécois n'auraient pas tous les enfants qu'ils désirent. Une décennie plus tard, l'inquiétude face au changement climatique viendra-t-elle influencer ce désir? Pour certains, mettre des enfants au monde alors que l'avenir est incertain demeurera une décision égoïste et irresponsable. À ce sujet, Emmanuel Pont cite Pablo Servigne, ingénieur agronome français, auteur, théoricien de la collapsologie et père pour qui avoir des enfants était « le choix de l'avenir et de l'espoir ». Un choix qu'il a fait lui aussi, au terme de la rédaction de son essai. Vous avez peut-être entendu notre bébé crier. C'était « Le dilemme démographique », un texte de Valérie Simard avec la collaboration de Simon Chabot, paru le 15 janvier 2023 dans La Presse. On sent que les gens nous aiment. Une chronique d'Isabelle Haché, parue dans la presse du 26 décembre 2022. J'aime bien ça ici. Tous les gens sont polis. On est bien traités. Oh, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Il y a des activités. On chante beaucoup. Et en plus, les repas sont bons. On mange bien. Non, Denise Francoeur ne parle pas d'un hôtel 5 étoiles au bord de l'océan, ni d'une résidence privée de luxe avec vue imprenable sur le centre-ville. Elle parle d'un bâtiment de briques beige boulevard Cartier à Laval. Le CHSLD Idola Saint-Jean. Et oui, elle aime ça. Beaucoup, pour vrai. C'est ça, la nouvelle. Ou, devrais-je dire la non-nouvelle? Parce que, bien sûr, les gens heureux ne font pas les manchettes. C'est bien connu, ils sont sans histoire. Permettez-moi de faire exception et de vous raconter celle de Denise Francoeur. Parce qu'au-delà des scandales de maltraitance, de négligence et de patate en poudre, ça existe, des résidents heureux dans les CHSLD du Québec. Et il y en a plus qu'on le pense. Denise Francoeur, donc, a emménagé au CHSLD Idola Saint-Jean le 19 août dernier. Auparavant, l'ancienne infirmière de 82 ans habitait une chic résidence privée pour aînés. Là-bas, elle avait l'habitude de faire ses bagages, de jeter tout le reste à la poubelle et de prendre la poudre d'escampette. Elle fuguait sans cesse. Bien sûr, on finissait par la retrouver confuse et désorientée, mais ça commençait à devenir franchement dangereux. Alors, ses proches se sont résignés à la placer dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée. Le CHSLD Idola Saint-Jean ne faisait pas partie de leur choix, mais une place s'y est libérée. Mon cousin m'a demandé « Comment tu trouves ça ?» J'ai répondu qu'il ne fallait pas regarder les murs qui avaient besoin d'un bon coup de peinture, raconte Diane Pelletier, la nièce de Denise Francoeur. Mais les murs, on ne les voit pas, s'empresse-t-elle d'ajouter. On les oublie vite, tant le personnel rend cet endroit accueillant. Les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les médecins, toute une équipe attentionnée, compétente, dévouée. Un rayon de soleil illumine la chambre de Denise Francoeur. Les murs sont décorés de tableaux qu'elle a peints elle-même. Sur son lit trône sa chatte Lulu, une peluche mécanique spécialement confectionnée pour les personnes atteintes de pertes cognitives. C'est Dr Mohamed qui me l'a donnée. Lui, on l'aime. Dr Mohamed, c'est Mohamed Hamada, l'infirmier. Il sourit sous son masque. « Je viens de monter en grade. » Un CHSLD, explique-t-il, ce n'est pas un hôpital. C'est le milieu de vie des résidents. Nous, sommes des employés chez eux. Nous sommes là pour répondre à leurs besoins. C'est ça, la philosophie. Au fil des mois ou des années à venir, les souvenirs de Denise Francoeur s'effaceront. La confusion s'installera davantage. Elle deviendra un calour. Mais ici, au contraire d'une résidence privée, une équipe l'accompagnera jusqu'à la fin. Le CHSLD, c'est la dernière maison, explique la docteure Laurence Tavernier. Il faut qu'on puisse administrer des soins de la même façon jusqu'au bout. Si Mme Francoeur perd son autonomie, on saura tout ce qu'elle aimait et tout ce qu'elle voulait partager avec nous. Cette connaissance-là va faire en sorte qu'on sera beaucoup plus pertinent dans notre accompagnement. Non. Les CHSLD ne sont pas des mouroirs où on parque les vieux pour s'en débarrasser. En fait, la plupart des résidents reçoivent la visite de leurs proches sur Linda A, préposée aux bénéficiaires. Et même ceux qui n'ont pas de visite, nous, les employés, nous constituons leur famille, dit-elle. Dans nos temps libres, on jase avec l'un et l'autre. Même ceux qui ne s'expriment pas, on leur touche doucement la main. Diane Pelletier craignait que l'état de sa tante ne régresse à son arrivée au CHSLD, mais pas du tout. Elle est ici comme un poisson dans l'eau. Elle a tellement été bien entourée dès le début. Je suis toujours impressionné des services et des soins qu'on lui apporte. Je sens une bonne humeur, un bel esprit d'équipe, de bons soins. Sa tante aussi le sent, malgré la confusion. La preuve, depuis qu'elle réside au CHSLD Idola Saint-Jean, Denise Francoeur n'a plus jamais cherché à fuguer. Je dis que c'est une non-nouvelle, mais en fait, une résidente de CHSLD heureuse de son sort, c'est pratiquement une nouvelle. C'est tellement, comment dire, inattendu. Ça semble incongru au milieu des manchettes catastrophiques, parmi les plus récentes. On n'a même pas le temps de laver les dentiers. Des dizaines d'aînés négligés, un CHSLD sous tutelle, maltraitance avérée dans deux CHSLD privés, Québec promet des mesures. Pas étonnant que des personnes âgées et moins âgées soient terrifiées à l'idée de finir leur jour en CHSLD. Certaines préféreraient mourir que d'aboutir là. Reste qu'avec le vieillissement de la population, le nombre de demandes d'hébergement en CHSLD augmente d'année en année, et ce n'est pas fini. Québec estime que les besoins doubleront d'ici 20 ans. Raison de plus pour que la population sache à quel point les résidents sont bien traités, estime Diane Pelletier, elle-même médecin de famille. Il y a plein de CHSLD qui fonctionnent bien et où on a de bons soins. Ce que je constate, c'est que tante Denise est heureuse. En résidence privée, elle était laissée à elle-même. Ce n'est pas comme ça ici, se réjouit Denise Francoeur. Ici, on s'occupe de nous. On sent que les gens nous aiment. C'était une chronique d'Isabelle Haché, parue dans l'édition du 26 décembre 2022 de La Presse, sous le titre « On sent que les gens nous aiment ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et Pierre Duclos à la recherche et Nicolas Wartman à la présentation et au montage.